Mai au Kasai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce magazine 100% interactif de Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le 20 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des droits de l'enfant. Et à marge de cette journée, Radio Okapi vous accorde la parole autour du débat sur la situation des droits de l'enfant en République démocratique du Congo. A noter qu'au fil des années, la RDC a adhéré et ratifié plusieurs instruments juridiques de protection et promotion des droits de l'enfant. Cependant, selon certaines observations, plusieurs efforts fournis par les gouvernements congolais n'arrivent pas à relever certains défis sur la situation de l'enfant à travers le pays. Quel constat faites-vous dans votre milieu et que faut-il faire pour améliorer la situation de l'enfant en République démocratique du Congo? C'est la question au cœur du débat. Notre standard est ouvert pour vous permettre de réagir. Composez déjà le 081 890 63 15 ou encore le 081 890 63 43 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de nous déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Titi Poutou, Guy Mandangou et Pierrot Elameji réalisent cette émission. J.R. Lungembo vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka. Mesdames et messieurs et fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Mbandaka en canoë-kayak. Franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur. Décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi. Traverser le lac Kivu à la nage, style papillon, et j'en passe. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport. Car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi. La journée internationale des droits de l'enfant, c'est aujourd'hui et il faut noter que c'est la date anniversaire donc de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été donc signée donc le 20 novembre 1989 et par 191 pays. Nous avons déjà le premier auditeur qui est en ligne, Arsène, qui est à Kikwit et vous êtes nombreux et qui avez souhaité et d'ailleurs intervenir dans cette émission autour de cette question. Quel constat faites-vous dans votre milieu et que faut-il faire pour améliorer la situation de l'enfant en République démocratique du Congo? Donc n'hésitez pas de nous rejoindre. Arsène, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour monsieur.
Voilà Arsène, vous êtes informé de la journée internationale des droits de l'enfant. Est-ce que dans votre milieu, vous pouvez nous brosser au niveau de Kikwit la situation de l'enfant dans cette partie du pays et que faut-il faire pour améliorer la situation de l'enfant en République démocratique du Congo?
Merci beaucoup pour la parole que vous venez de m'accorder. Je crois que la situation de l'enfant au niveau de la ville de Kikwit est un peu précaire. Malgré que je peux dire, ce sont des vaillants garçons et filles qui savent un peu comprendre un peu leur avenir. Mais alors, avant d'entamer un peu la profondeur, je voudrais aussi quand même présenter les regrets que les enfants ont ici quand ils apprennent par-ci, par-là, ça ne va pas à Goma, qu'est-ce qui ne va, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. On pose trop de questions. On essaie un peu de leur expliquer. Ils disent toujours, peut-être ça va venir aussi ici chez nous. Bon, on les calme. Mais on ne peut pas parler de l'enfant sans parler de son environnement et son avenir. Son environnement, c'est tout ce que nous voyons tout autour de nous. Nous voyons la santé est par terre, l'enseignement est par terre, et tout ce que nous voyons, les comportements même des parents vis-à-vis de leurs enfants. Alors, permettez?
Oui, allez-y Arsène.
Oui. Les parents sont en difficulté. Comment est-ce qu'ils peuvent encadrer leurs enfants? Vraiment, la situation de l'enfant, de Kikwit en particulier, c'est une situation que je trouve grave. Grave pourquoi? Parce que, d'abord, la formation et l'avenir d'un pays dépend de ce qu'on fait pour l'enfant. Parce que l'avenir appartient à l'enfant. Les écoles, si vous regardez de ce côté-là, l'éducation est en train de faillir. L'instruction est en train de faillir. non-gouvernants se présentent avec des méthodes qui sont quelquefois aussi ridicules, s'il faut le dire, d'utiliser ces mots-là. Les enfants, quand ils vont à l'école, ils ne peuvent pas étudier tranquillement parce que le parent n'a pas payé le minerval, parce qu'à l'école, on chasse. Et là, nous autres, nous nous demandons où nous allons avec nos enfants. Quel pays,
oui, oui,
quel
Arsène.
Genre de pays
oui,
nous allons préparer pour nos enfants.
Oui, Arsène, si vous pouvez peut-être nous faire une idée sur le taux de scolarisation au niveau de Kikwit. Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants vont à l'école et vous pouvez estimer le taux à combien à peu près?
En tout cas, à 80%, 90%, nos enfants vont à l'école. Ils vont quand même à l'école, bien qu'il y ait des difficultés. Bon, avec quelques-uns qu'on peut trouver dans la rue parce que c'est pas bien suivi, mais nos enfants vont quand même à l'école difficilement. Mais sachez que Kikwit, c'est une ville qui est en quelque sorte une ville-école. Hein, parce que là, il faut préciser, tous les établissements que nous avons ici, les entreprises, les grandes entreprises, ce sont des écoles. Nous n'avons pas des entreprises de production, mais les écoles, il y en a vraiment assez.
Alors, mais qu'en est-il de l'accès aux soins de santé primaires pour les enfants et aussi le taux de mortalité infantile? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça dans votre milieu?
Oui, un petit constat du côté sanitaire. Vraiment, il y a des difficultés, des grandes difficultés, parce que l'hôpital général, qui est à la pointe de tout ce qu'on a comme institution de santé ici, n'a pas vraiment assez d'appui, n'a pas assez de moyens pour essayer un peu de bien soigner nos enfants. Et les petits centres de santé qui sont par-ci, par-là, d'ailleurs j'ai même connu un petit problème il y a 3-4 jours, dans un petit centre, j'ai vu même le médecin chef de zone s'est fâché, était prêt à fermer ce centre-là, mais je ne sais pas s'il l'a fait, qu'il manquait des microscopes, qu'il manquait presque de tout, mais ils observaient, c'est le travail. De ce point-là, côté santé, nous avons des difficultés parce que on n'a pas assez trop de moyens. Du côté mortalité, je crois qu'il y a aussi des difficultés là-dessus, suite à l'information et à l'éducation même de la mère et des parents. Voilà un peu
voilà,
la situation de l'enfant.
Merci Arsène d'avoir participé à cette émission. Nous allons à Kananga. Nous prenons juste un petit véhicule. Hein. Si vous voulez, on prend un camion. On va traverser de l'autre côté vers Kananga où on retrouve Roger. Roger, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à l'invité, c'est Roger Tchaba.
Voilà, Roger, quel constat avez-vous fait dans votre milieu quant à la situation de l'enfant? Est-ce qu'on peut dire, comme l'a dit Arsène, à Kikwit, donc Kikwit est une ville-école, il estime selon lui donc à 80%, donc les enfants vont à l'école malgré quelques difficultés constatées si elles ça et là, et que les infrastructures qui devraient en principe accueillir ces enfants ne sont pas en bon état, voilà. Donc, est-ce que c'est la même photo, les mêmes films au niveau de Kananga?
Moi, je ne trouve pas qu'il n'y a pas la différence. C'est la même situation qui se passe ici à Kananga.
Oui, Roger, si vous pouvez un peu parler fort là, parce que là, vous vous étiez à peine.
Oui, j'ai dit que c'est la même situation qui se passe ici à Kananga. Il n'y a pas tout à fait une différence là. Et ce que je souligne aussi, il faut souligner les trois points, ou les trois milieux d'où se citent la famille, la société, ainsi que les milieux éducatifs. Et le plus possible, c'est le milieu éducatif qu'il faut un peu améliorer, parce qu'il y a des enfants, plus de 80%, je peux dire ici à Kananga, les enfants étudient, mais il y a le milieu éducatif où on peut aller afin que les enseignants puissent bien encadrer les enfants. Vous trouverez dans une salle de classe où un enfant a un problème, mais il espère dire ce problème à son enseignant ou à son professeur. Mais il va dire à une autre personne qui n'a même le droit à régler ses problèmes. Et nous pensons que si cela se réalise comme ça, l'enfant sera capable de s'exprimer dans tout ce qu'il faut faire. Mais pour le milieu familial, il faut aussi que les parents puissent prendre leurs responsabilités concernant leurs enfants. Et je vous dis que dans notre famille, si j'ai un petit enfant à l'âge de 6 ans, 7 ans, lorsqu'il a un problème, par exemple, demander les stylos, un cahier, il va chez le voisin pour dire à notre voisin que non, voilà, j'ai un problème, allez demander pour moi le cahier chez le papa ou chez la maman. Vous voyez que les enfants ne sont pas libres. Il faut que ces enfants soient libres afin qu'ils puissent avoir leur droit de s'exprimer dans tout et pour tout. Concernant leur santé, je vous dis que depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, j'ai participé dans des centres de santé et d'autres où je fais les stages j'ai trouvé que c'est plus de 60% que les enfants tombent toujours malades. Et les parents sont incapables de supporter leurs enfants. Dans ce cas-là, on ne peut pas parler des droits de l'enfant car les droits n'est pas libre. Je pense que c'est dans ce sens-là que j'ai toujours aussi m'exprimer.
Voilà, merci Roger. Donc vous avez focalisé votre intervention sur trois points. Donc vous avez parlé plutôt de la responsabilité de la famille, le milieu éducatif et aussi la société dans laquelle vit l'enfant. Donc il faudrait qu'à un certain niveau que les autorités puissent respecter les différents instruments juridiques auxquels ils ont adhéré, donc pour permettre à ce que les enfants aient de vivre dans des bonnes conditions. Merci Roger d'avoir appelé de Kananga. Daniel, vous êtes à Kinshasa et vous êtes élève, vous avez souhaité intervenir dans cette émission. Daniel, bonjour.
Bonjour.
Voilà Daniel, aujourd'hui c'est la fête, la journée internationale des droits de l'enfant. Vous êtes élève, vous êtes enfant. Quel regard avez-vous d'ailleurs sur la situation de l'enfant en République démocratique du Congo et plus particulièrement de l'enfant
en fait,
à Kinshasa?
En fait, je suis même un peu content parce que c'est un peu comme ma journée. Alors, je la célèbre.
Voilà, est-ce que vous constatez qu'aujourd'hui l'enfant...
Allô?
Oui, Daniel, vous êtes avec nous?
Oui, je célèbre un peu parce que moi aussi je suis enfant.
Oui.
Je souhaite bonne fête à tous les enfants. Je dis que leurs droits doivent être respectés. Alors cette journée est vraiment très importante pour les enfants. Alors tous les adultes doivent respecter les droits des enfants.
Voilà, si je comprends bien Daniel, pour vous, les droits de l'enfant ne sont pas respectés en République démocratique du Congo. Et là, vous lancez encore un appel pour que les adultes puissent avoir un regard sur, disons, toutes les exigences au fait de différents instruments juridiques relatifs à la promotion et à la protection des droits de l'enfant, enfin de donner pour arriver à donner donc à l'enfant de meilleures conditions pour vivre dans ce monde. Merci Daniel d'avoir appelé. Donc c'est comme Arsène qui venait de dire tantôt, qui quitte, les problèmes ne se posent pas, les enfants ont accès à l'éducation, il a estimé à peu près à 80%, et il a été renchéri par notre ami de Kananga qui parlait pratiquement de la même situation. Et voilà, donc nous retenons que la République démocratique du Congo a pris une part active au sommet mondial pour les enfants qui a été organisé en 90, et pour ce faire la République démocratique du Congo a adhéré à la convention relative aux droits de l'enfant disons en 1989, qu'elle a ratifiée par l'ordonnance numéro 90-048 du 21 août 90. Et voilà, donc aujourd'hui au regard des problèmes qui se posent et selon certaines observations, on se rend compte qu'il y a plusieurs défis à relever quant à la situation, à l'amélioration donc de la situation de l'enfant. Donc nous allons parler de cela avec notre invité qui vient d'ailleurs de faire son entrée. On va le recevoir tout à l'heure et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez également participer à ces débats en composant les 081 890 43 39.
Parole aux auditeurs.
Nous avons en ligne Christian qui est à Kwandroma. Christian, vous êtes avec nous. Christian, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Voilà, Christian, vous avez suivi Arsène, donc, et aussi d'autres intervenants de tout à l'heure, Daniel notamment, qui est élève. Alors, tous évoquent certains défis qui doivent être relevés par le gouvernement congolais pour améliorer la situation de l'enfant. Quel regard avez-vous et quel commentaire avez-vous par rapport à cette question?
Mon commentaire est tout simple, Gilles. C'est celui-ci. Il s'agit de la contribution aussi des autorités de l'État congolais, parce que l'amélioration des conditions de vie de la population énoncée dans les cinq chapitres, etc., c'est ce qui n'est pas fait. Par exemple, quand nous prenons le cas de Kwandroma, effectivement, comme l'a dit mes prédécesseurs, il y a quelques 80%, 90% sont à l'école, mais on est en train de voir déjà, je suis enseignant dans une école, les autres élèves, ils ont commencé à quitter. Donc, à partir des sensibilisations, on a quand même gagné bon nombre d'élèves à l'école, mais après X temps, les élèves commencent à quitter pour cause de la collation. Alors, surtout, cela se fait dû à la mauvaise condition de la population. Ça, c'est un. Alors, deuxième commentaire, c'est seulement concernant la violation des droits des enfants. Il y a ce qu'on appelle les mineurs. Leurs droits ne sont pas respectés vraiment ici, en République démocratique du Congo. Il y a des familles qui sont pauvres quand ils sont victimes de tels cas. On leur demande quelque chose pour attaquer leur dossier. Vous voyez combien de fois l'autorité de la RDC n'est pas se montre vraiment ennemi à sa population. Quand la population demande une intervention auprès de son autorité, l'autorité demande quelque chose à cette famille qui est victime, et c'est comme ça que ça décourage la famille là. Et c'est comme ça que vous allez voir les jeunes gens qui ont des moyens, ils ont plutôt cherché à entrer dans des familles qui sont pauvres comme ça, parce que cette famille n'aura pas de moyens pour amener soit ce dossier au niveau des parquets. Il faut aussi que la justice congolaise puisse rendre cette tâche un peu plus facile à la population, même qui est pauvre, même qui est riche.
Voilà, merci. Oui, Christian, d'avoir tracé ce tableau. Là, on retient que votre inquiétude tourne au côté de violences qu'on enregistre à longueur de journée, des violences faites aux mineurs. Et voilà, donc là, ça renvoie quand même à la question sur la loi qui défend, au fait, la loi contre les violences sexuelles qui ont été adoptées au niveau du Parlement et promulguées. Aujourd'hui, cette loi est en vigueur. Donc, on se pose la question par rapport à votre inquiétude, si réellement les autorités font un suivi par rapport à cette loi, et vous vous demandez qu'il n'y ait pas cette politique de deux poids deux mesures. Normalement, les puissants arrivent toujours à mater les faibles. Merci Christian d'avoir appelé. Tracy, vous êtes à Kinshasa, vous êtes également élève. Bonjour Tracy.
Bonjour.
Et comment allez-vous Tracy? Bonne fête.
Très bien. Merci.
Voilà, Tracy, vous êtes élève. Vous avez suivi les intervenants de tout à l'heure. Et quel commentaire faites-vous par rapport à la situation de l'enfant en République démocratique du Congo? Pensez-vous que l'enfant, les droits des enfants sont quand même respectés? Les enfants vont à l'école? Vous pensez que les enfants vont à l'école? Allô, Tracy?
Allô.
Voilà, Tracy. Vous êtes avec nous?
Pardon?
Voilà, je trouve que Tracy est vraiment plongée là, avec en causerie avec des amis. On va prendre Malonga qui est dans le Bandundu. Oh, bonjour Malonga. Bonjour Malonga. Malonga, vous êtes avec nous. Voilà, merci à tous les auditeurs qui sont en ligne et qui attendent d'ailleurs d'intervenir. Nous tournons du côté de notre invité Joseph Godet Kayembe, qui est le président du conseil d'administration de la LISADEL, la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves. Bonjour Godet.
Bonjour.
Voilà, vous avez suivi tout à l'heure les intervenants qui ont brossé le tableau par rapport à la situation des droits de l'enfant en République démocratique du Congo à travers le pays. Nous avons été tour à tour à Kwandroma, à Kikwit, à Kananga. Aujourd'hui, parce que vous êtes un acteur sur le terrain, est-ce qu'on peut avoir une idée claire sur la situation de l'enfant en République démocratique du Congo, malgré que la RDC a adhéré et ratifié plusieurs instruments juridiques, que ce soit internationaux ou nationaux?
Merci beaucoup pour cette question qui est une préoccupation de tous les jours de notre organisation. Nous avons, avant de répondre à cette question, je voudrais vous dire que la situation de l'enfant en RDC a beaucoup régressé par rapport à sa situation de 1965. Comme vous le savez, en 1965, tous les enfants avaient droit à l'éducation, avant même qu'il y ait la convention relative aux droits de l'enfant, ils bénéficiaient de la protection réelle, il n'y avait pas de violence comme maintenant. Depuis de 65 à 84, et maintenant la situation a beaucoup changé, elle a beaucoup évolué négativement. Tout le monde accédait à l'éducation parce que l'enseignement était presque gratuit. Tous les grands que vous voyez aujourd'hui dans la République ont bénéficié des appuis de l'État,
et qui a mis à la disposition de chaque famille la possibilité de permettre à son enfant d'accéder à l'éducation. Aujourd'hui, la Convention relative aux droits de l'enfant a été ratifiée et signée par la République démocratique du Congo depuis 1999. Et cette loi, cette convention a été traduite en loi, que nous avons la loi sur la protection de l'enfant, qui reprend toutes les dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l'enfant pour sa mise en application en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les droits de l'enfant, pour ce qui est leur mise en œuvre en République démocratique du Congo, posent trop de problèmes. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Il n'y a pas la volonté politique parce que quand vous regardez le budget de l'État affecté aux secteurs sociaux, je parle de la santé, je parle de l'éducation de l'enfant, je parle de la protection de l'enfant, le budget est minime. C'est par là qu'on traduit, qu'on voit la volonté du pouvoir. La volonté de voir, on ne peut pas le dire verbalement, mais on le voit à travers les budgets consacrés aux secteurs sociaux. L'éducation qui avait à l'époque entre 65-84 à 30%, le budget aujourd'hui est à 4-5%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés à pouvoir permettre aux enfants d'accéder au système éducatif. Et beaucoup d'enfants restent à la maison. Plus de 50% d'enfants n'accèdent pas à l'éducation. Et pourtant, entre 65 et 84, près de tous les enfants accèdent à l'éducation, plus de 95% d'enfants accèdent à l'éducation. La situation est dramatique. Et concernant même la protection de l'enfant, à l'époque, il y avait des foyers sociaux dans ce pays-ci. Le pays ici avait des foyers sociaux où les enfants, lorsqu'ils sont en difficulté ou en conflit avec le pouvoir, les enfants pouvaient être gardés dans le secteur, dans le foyer social pour leur prise en charge. Et aujourd'hui, ces foyers sociaux n'existent pas. Et quand même il y a la loi qui prévoit ces choses, ça n'existe pas. Donc, comme les amis l'ont dit, les droits de l'enfant sont loin d'être appliqués. À l'époque, comme vous le savez, la justice fonctionnait
comme... Joseph, ce qui est plus curieux, vous avez évoqué l'historique, au fait, vers les années 65, la situation était encore meilleure. Au fait, c'est après 94 qu'on a constaté cette dégradation. Mais ce qui étonne plus d'un, c'est vers les années 90 qu'il y a eu émergence, qu'il y a eu prolifération des différentes ONG pour venir en appui aux activités du gouvernement quant à la protection et à la promotion des droits de l'enfant. Mais comment se fait-il que malgré la multiplicité des acteurs travaillant dans les secteurs, la situation est loin d'être meilleure?
Le problème que j'évoque actuellement, c'est lui lié à la volonté politique du pouvoir. C'est le pouvoir public qui a la capacité de rendre facile l'accès des enfants à l'éducation. Les ONG, les organisations internationales viennent en appui. C'est-à-dire que l'État, au moment où il a affecté un budget conséquent à l'éducation, je vais vous surprendre. Nous sommes en 1980. Le budget de l'État au Congo était de 1,5 milliard, mais l'État congolais a affecté plus de 400 millions à l'éducation. Affecté plus de 400 millions. Ce qui fait que tout le monde là a accès à l'éducation. Aujourd'hui, nous avons plus de 6 millions, mais les budgets...
La belle époque de Samaphos,
s'il vous plaît, le secrétaire général. Ça n'a rien à faire avec la belle époque. C'est le budget. Je ne parle pas de la belle époque. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'état de l'argent de la République si on ne sait pas l'affecter à l'éducation ou à la santé? Donc si nous payons les taxes, nous sommes surtaxés. Nous sommes un seul pays où la population est surtaxée à travers le produit de consommation. Nous payons beaucoup de taxes. Mais toutes ces taxes devaient nous servir à la prise en charge de l'éducation et de la santé. Si on ne sait pas le prendre en charge, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, il ne faut pas évoquer cette
là, nous sommes en 80, 90, 91, il y a eu pillage.
Non, 90, déjà en 84. L'État congolais entre en programme avec la Banque mondiale FMI. D'ailleurs, je vous dis que la Banque mondiale et FMI qui sont à la base de notre dégradation. La dégradation du système éducatif, la dégradation des tissus économiques du Congo. Les gens ne doivent pas oublier.
C'est pas le pillage de
91-93. C'est à la suite de cette décision, à la suite du programme d'ajustement structurel en 84, que Mobutu décide de ramener le budget de 30% à l'éducation à 1%. Et la santé qui avait un budget conséquent, est ramené à 0,00. Et ce qui a fait que la situation, il y a eu des bâcles du système éducatif. Il y a eu des bâcles de la santé, du système de santé. Donc c'est à la suite des décisions politiques. Donc c'est pourquoi nous disons à notre niveau que si nous voulons redresser la situation dans le système éducatif, c'est pour nous des moyens.
Oui, on va revenir quand on va proposer des solutions. Il est temps d'ailleurs de prendre Kabacha qui est à Bukavu et Ali qui est à Kolwezi. Bonjour Kabacha. Oui, Kabacha, vous êtes avec nous. Voilà, vous avez suivi tout à l'heure vos prédécesseurs qui ont évoqué, qui ont brossé le tableau de la situation de l'enfant dans leur milieu. Vous êtes à Bukavu. Quelle est la situation de l'enfant dans cette ville? Et qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la condition de l'enfant à travers des conditions donc de l'enfant, des droits de l'homme, des droits de l'enfant à travers le pays? Voilà, Kabacha n'est plus en ligne. On va prendre Ali qui est à Kolwezi au Katanga. Ali, bonjour. Voilà, Ali, vous êtes avec nous? Voilà, décidément, on a un petit problème là. Voilà, c'est Freddy qui est à Lubumbashi. C'est plutôt Freddy.
Oui, allô?
Alors, Freddy, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour, Freddy.
Bonjour.
Voilà, Freddy, si vous pouvez peut-être nous brosser le tableau de la situation de l'enfant disons à Lubumbashi et aussi nous donner quelques pistes, des solutions, comment faire pour améliorer la situation des droits de l'enfant dans l'ensemble du pays.
Oui, ça va. Moi, j'ai une question à poser seulement à notre invité. Ici à Lubumbashi, il y a beaucoup d'enfants qui ne partent pas à l'école, comme les chèques, comme les orphelins. Mais selon la pédagogie, l'article 25 dit que chaque enfant a droit à l'éducation. Pourquoi notre gouvernement ne voulait pas prendre ces enfants-là en charge? Parce que ce sont les enfants qui portaient les tricots de nos politiciens dans l'état de campagne. C'est moi, je pose une question à notre invité, que pourquoi notre gouvernement ne voudrait pas prendre ces enfants-là en charge, les orphelins et les chèques, les enfants qu'on appelle comme les enfants du rue, les enfants des marchés. Le gouvernement ne voulait pas prendre ces enfants-là en charge. Qu'est-ce que notre gouvernement, il regarde où? Tous les ministres et tous ceux, même les présents, toutes personnes. On a commencé par l'éducation. Ce qu'on est arrivé, ce qu'on est. Et je voulais poser une question très vite, je voulais savoir.
Voilà, donc je retiens que votre inquiétude tourne autour de la gratuité de l'enseignement pour permettre à ce que tout enfant ait accès à l'éducation comme moteur de développement. Donc un enfant qui est formé, c'est l'avenir pour un pays. Et merci Freddy, comme c'est une question directe, on va directement reposer à notre invité Joseph Godet. Vous avez suivi Freddy. Quelle réponse réservez-vous à cette question?
Le droit de l'enfant à l'éducation, c'est une grande préoccupation pour les Nations Unies. Parce que quand vous lisez la Convention relative aux droits de l'enfant, il est prévu dans la disposition 28 que l'enseignement doit être gratuit, obligatoire et accessible à tous les enfants.
Et le ministre de l'Enseignement l'avait déclaré l'année passée.
Aussi, quand vous regardez dans la loi portant protection de l'enfant, il est dit la même chose, mais aussi dans la Constitution. Si cette loi, si cette disposition n'est pas d'application, moi je suis convaincu que... Ou soit que l'État ne sait pas ce qu'il n'a pas une vision claire sur ce que doit être l'avenir de tous nos enfants.
Mais le ministre de l'Enseignement l'avait déclaré l'année dernière que l'enseignement devrait être gratuit et l'expérience a été déjà lancée au niveau de plusieurs coins du pays, sauf Kinshasa et Lubumbashi qui allaient suivre après.
Je suis disposé à pouvoir vous donner une réponse appropriée par rapport à cette réaction du ministre. Je crois que peut-être le ministre, soit il interprète la chose à sa manière, ou il n'a pas compris la pertinence, la gratuité de l'enseignement. Parce que quand vous regardez même la proposition de loi qu'il avait disponibilisée, qu'il avait déposée au Parlement, quand vous regardez vous examinez cette loi, pour le ministre, il s'agit de frais de l'État. Il s'agit de frais de l'État, de 500 000 francs, que le parent doit être dispensé de payer ses frais. Le reste, ça ne les concerne pas. Je considère que le ministre de l'Éducation a sa manière de concevoir la gratuité de l'enseignement. Donc, la gratuité de l'enseignement suppose que l'enfant quitte l'école, il quitte la maison, mais vite, il arrive à l'école, l'État lui donne les cahiers comme on le faisait avant, l'État l'inscrit et l'enfant commence à étudier. C'est ça la gratuité de l'enseignement. Mais quand les parents, pour que l'enfant accède à l'éducation, on lui exige les reçus de Minerval, les reçus des frais, le frais que le parent paye aussi pour l'administration de l'État, on considère que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore compris ce qu'est la pertinence et la préoccupation des Nations Unies. Les Nations Unies considèrent que
lorsque l'enfant va étudier, voilà pourquoi on est parvenu à ces dispositions, que lorsque l'enfant étudie, il n'étudie pas pour les parents, il étudie pour la nation. Il faut que la nation le prenne en charge. Quand il le prend en charge, quand il va étudier, il devient redevable vis-à-vis de l'État. Mais dans ce pays ici, où chacun se débrouille, voilà pourquoi il n'y a pas de patriotisme au Congo. Les gens se disent, lorsque nous avons étudié, nos parents se sont battus, ils ont vendu leurs histoires pour que nous puissions étudier. Qu'est-ce que nous avons fait avec l'État? Ils refusent de pouvoir agir à ce moment-là.
Oui. Donc, on va peut-être prendre également Ismaël, mais une inquiétude, c'est également, parce que ça c'est au niveau de l'éducation, oui. vous avez évoqué tous ces problèmes, les principales constatations dans les secteurs de l'éducation, mais si nous allons dans les secteurs de la santé et aussi l'environnement tout entier, donc on se rend compte que le niveau d'évolution, de l'évolution de la situation de l'enfant, c'est pratiquement le même, c'est vraiment dégradé, comme vous l'avez dit, à tous les niveaux.
D'ailleurs, sans pour autant terminer ce que j'ai parlé pour l'éducation.
Parce qu'aujourd'hui, on parle de mortalité infantile très élevée. Oui. On parle de problèmes de l'environnement, de vie pour les enfants. C'est malsain. Mais finalement, les tableaux sont sombres à tous les niveaux.
D'abord, quand on dit que l'enfant a droit à la santé, c'est-à-dire que l'État subventionne les hôpitaux. Pour que lorsqu'on amène un enfant à l'hôpital, qu'il ne soit pas soumis à l'administration de l'hôpital. Qu'on ne dise pas à l'enfant, n'a pas payé tel produit, on soigne l'enfant gratuitement. Au niveau de l'hôpital, le parent a des moyens, on essaie d'appliquer la politique de péréquation pour permettre à l'enfant, pour sauver l'enfant. D'abord, on doit sauver l'enfant. L'État subventionne les hôpitaux. À l'époque, ça se faisait. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, c'est que l'État a comme ce qu'il mobilise, comme fonds. S'il donnait priorité à la santé, à l'éducation, qui sont les secteurs clés pour le développement de l'homme. Parce qu'en fait, on travaille pour le développement de l'homme. Et si aujourd'hui, le Rwanda affecte 50% du budget à l'éducation, l'Ouganda affecte 40% du budget à l'éducation, au Congo, on affecte 5%. Vous comprenez tout de suite que nous sommes loin de la réalité. Je suis allé aux Nations Unies participer à l'Assemblée nationale, générale, consacrée aux enfants. Et je suis rendu compte que nous sommes le dernier pays où on ne sait pas respecter, où on ne sait pas ce qu'on fait. Parce que si on ne sait pas prendre en charge l'enfant, on ne sait pas quel va être l'avenir de ce pays. Donc, déjà, à l'époque, et dans d'autres pays, on le fait pour préparer le relève. Mais chez nous, ce n'est pas la préoccupation. Et c'est le grand problème, comme notre ami l'a dit, il dit que l'État doit jouer son rôle. Donc, il appartient. Il appartient, comme je l'ai dit.
Oui, rappelons d'abord à nos auditeurs, et surtout à ceux qui souhaitent d'ailleurs nous rejoindre. Ils peuvent composer les 081 890 43 39 pour participer à cette émission, ou carrément, ils peuvent déposer leurs commentaires sur notre page Facebook. Voilà, nous avons déjà quelques-uns qui sont en ligne, mais nous vous invitons, chers auditeurs, à retenir que les principales constatations que nous avons pu sortir de certains rapports, il y a la RDC a pris une série de mesures et a mis en place un nombre de mécanismes pour l'application de la convention relative aux droits de l'enfant. Malgré cet effort, la situation de l'enfant est demeurée préoccupante sur tous les plans. Vous venez d'ailleurs de suivre notre invité. L'émergence des ONG et associations laïques et confessionnelles dans le secteur pour appuyer les efforts du gouvernement. La faiblesse de la communauté internationale due à la rupture depuis 90 et certains évoquent même les pillages de 91-92 et qui a fait qu'aujourd'hui la situation s'est empirée. Alors quel commentaire avez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-43-39.
Parole aux auditeurs.
Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Ismaël.
Bonjour hier, voir et tout.
Merci beaucoup Ismaël. Alors, quel commentaire faites-vous par rapport à la situation de l'enfant en République démocratique du Congo?
Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Mais la situation des droits de l'enfant en RDC semble être déplorable. Pourquoi on peut même affirmer à ces temps? C'est parce que nous voyons ce qui se passe actuellement à nos vues. Vraiment, c'est très difficile à supporter. Et nous voyons les enfants dans la rue, partout là. Et même les tâches qu'ils entretiennent, je vous dis, c'est très difficile même à décrire. Vous verrez un enfant de 14 ans, de 15 ans, lui est en train de prendre du cannabis. C'est très difficile, on ne saurait jamais même expliquer ça. Qu'est-ce qui se fait cela? C'est parce que les enfants, le parent manque les moyens pour entretenir les enfants et leur faire progresser vers un but. qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu que la plupart des enfants ne fréquentent pas l'école. Cause, et la scolarité est plus élevée qu'en soi. Il n'y a pas moyen à ce que les enfants puissent suivre une éducation à la façon normale. Et nous déplorons maintenant encore que les droits des enfants, et surtout ici à Lubumbashi, si vous remarquez, demandez même à Jean-Landupé si on est parti par là. Mais s'ils arrivent sur au niveau du marché Mouzé, ils verraient qu'un enfant de 12 ans, au lieu d'aller à l'école, il est là en train d'appeler un chauffeur ou un homme d'affaires qui vient avec le véhicule à ce qu'il fasse en sorte que le véhicule a pu se stationner, envie d'avoir quelque chose pour manger du beignet. Et pour moi, je vois que l'État a une négligence. Si nous allons dans la matière des soins, et il faut à ce qu'il y ait même des hôpitaux, à ce que les enfants soient être équipés dans la façon des soins plutôt que les faire du stress. Je me souviens une fois quand j'ai fait la défense, je dis que l'État, les autorités politico-administratives doivent faire en sorte à ce qu'ils s'équipent des hôpitaux et qu'ils multiplient aussi. Le professeur Mkoutou a maman posé la question, mais pourquoi diminuer l'État? Et pourtant, il y a déjà les hôpitaux. Je l'ai demandé, si nous avons des hôpitaux, est-ce que ces hôpitaux sont-ils occupés? C'est ça un problème. C'est-à-dire, nous avons remarqué que sur...
Mais non, mais Ismaël, l'État est en train de fournir beaucoup d'efforts en construisant des hôpitaux VIP, des hôpitaux qui pourraient donner accès, en tout cas, dans de meilleures conditions à la population. Donc, c'est dans le projet de la modernité.
Bien sûr. Est-ce que vous avez vu l'intérêt ou l'avantage de la gratuité d'enseignement? Ici, par exemple, l'espace de veille communautaire ici. Pour un enfant qui soit admis là, premièrement, par mois, on paye, il y a ceux qui payent 100$, 80$, 50$. Et remarquez, est-ce que ça peut aller? Si vous évaluez, par exemple, Bandundu, Kananga, et l'inspectrice de là, j'espère que c'est Ndaya. Là, l'enseignement est gratuit pour l'espace de veille communautaire. Ici, maintenant, ça coûte énormément cher. Et à combien de fois de raisons qu'un parent qui est payé, par exemple, 45 000 francs peut faire en sorte à ce que ta famille mange et ses enfants puissent étudier?
Donc, c'est déjà un blocage pour l'enfant. L'enfant ne peut pas avoir accès.
C'est ça, J.R. Et le problème maintenant, c'est qu'il faut qu'il y ait la gratuité de l'enseignement. Il faut que les enfants soient équipés au lieu de les laisser en route. Je remarquerai aussi qu'une difficulté qui est là, c'est parce qu'on utilise les enfants de mauvaise manière. Et si on l'utilise de la bonne, on les manipule d'une bonne manière, ça peut aller, on va les instruire en tant que responsable de la République. Parce que le lendemain, si on passe les JR aujourd'hui, c'est parce que JR a été équipé d'une bonne manière. Et de la façon aussi, si on va équiper aussi d'autres enfants de cette manière, on parlait là par exemple de Freddy et des autres professeurs ordinaires. Parce que dit-on, en République, j'espère qu'en 1964, il y avait combien de professeurs ici?
On pouvait en compter, disons, moins d'une dizaine. Il n'y avait même pas trois, même pas quatre. Des professeurs ordinaires, on n'en avait pas assez. Ismaël, merci. Nous retenons que vous demandez aux responsables de ne pas utiliser les enfants comme des marchepieds, hein, qu'on utilise que chaque fois qu'on a besoin pour des fins politiques, à qui on remet quelques t-shirts pour la mobilisation populaire afin de pouvoir gagner l'électorat. Mais vous voulez qu'on puisse réellement prendre soin de la formation des enfants, enfin, de préparer l'avenir de la nation. Merci Ismaël. Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour.
Bonjour, J.R.
Est-ce que vous partagez l'avis d'Ismaël qu'il faudrait que les gouvernements puissent réellement s'impliquer pour autour de la promotion et la protection des droits des enfants en République démocratique du Congo?
Merci. Nous sommes d'accord avec tout ce que les amis ont dit, mais je dédie avant mon intervention... Je dédie mon intervention à tous les enfants en détresse au Nord Kivu. Et qu'est-ce que j'allais dire, moi? Il faut que l'autorité politique puisse rétablir dans les droits les familles. Les parents doivent avoir tous les pouvoirs, tous les enfants qu'ils comptent avoir dans leur famille. Dès que les parents ont les pouvoirs sur les enfants, je vois très mal comment cet enfant sera qualifié de sorcier pour qu'il soit abandonné ou que l'Église, nos Églises, recrutent ces enfants pour les qualifier de sorcier et en fait les familles les abandonnent. Je vois très mal si les parents sont capables de nourrir son enfant du premier au 30, le nourrir, le vêtir, l'envoyer à l'école, lui recevoir à la maison pour recevoir des leçons, des familles, l'éducation des bases. Je vois très mal comment l'enfant peut dévier. C'est pourquoi nous demandons que le pouvoir de la famille doit être sécurisé par le travail, par les salaires, par les occupations des parents. Au-delà de tout ceci, l'enfant sera bien aimé dans la famille, dans tous les milieux. L'éducation ne dépend pas seulement de la famille. Lorsque toutes les familles sont bien, encadrent bien les enfants, n'importe quel parent qui rencontre n'importe quel enfant en cours de route qui se méconduit, les parents doivent intervenir ou doivent interpeller cet enfant. C'est comme cela qu'aujourd'hui nous faisons distanciationnelle. Nous sommes partis trop vite en besogne, en mettant même cet enfant qui est mal encadré, mal soigné, mal éduqué, mal enseigné. On va créer des circuits policiers ou judiciaires pour cet enfant, tribunaux des enfants. Mais quel est cet enfant qu'on doit juger là-bas? Cet enfant, comme la misère de Lubumbashi qui demande de l'argent, cet enfant qu'on parle, les
oui,
soirs,
oui, pour votre gouverne,
vendre les fruits.
Oui, s'il vous plaît, pour votre gouverne d'ailleurs, et pour ceux qui nous suivent également, parce que vous avez parlé des instances qui pourraient juger les enfants en conflit avec la justice. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a les tribunaux qui sont mis en place, mais qui ne sont pas encore opérationnels. On ne sait pas pourquoi, par manque peut-être des juges et des gens qui ont été formés pour ça. Voilà, donc ça c'était pour votre information. Merci Ernest d'avoir appelé de Matadi. Nous retenons que vous partagez le point de vue de vos prédécesseurs, qu'il faille au gouvernement de mettre un peu une bouche double pour permettre à ce que la situation de l'enfant puisse être améliorée, c'est-à-dire établir dans le droit les différentes familles congolaises. Justin, vous êtes à Kisangani. Bonjour Justin.
C'est Toussaint.
Voilà, Toussaint, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour. Et vraiment, au moment où je vous parle, d'abord, nous sommes dans des maisons enfermées parce que il y a une marche des étudiants pour les événements de l'Est. Bon, et je voudrais intervenir pour vous dire que vraiment le gouvernement doit faire son travail. Parce que quand on parle de la gratuité, et nous trouvons que ce sont des chansons inutiles. Les parents continuent à payer des primes et ça pèse beaucoup sur vraiment ces mêmes parents. Alors que les mêmes parents sont mal payés, les salaires qui viennent parfois après autant de mois. Moi, je pense que le gouvernement devait faire son travail. Je suis d'avis vraiment à ce que l'invité venait de dire. Voyez la comparaison qu'il a fait avec le Rwanda qui est à côté. 50% pour l'éducation. Alors que nous nous contentons de 5%. Voyez le cas. Alors on se demande quelle élite de demain que nous pouvons préparer dans notre pays. C'est le pays qui se meurt. Vraiment, en tout cas, je partage le point de vue de tous les collègues qui venaient de parler avant moi et je suis vraiment d'avis de ce que l'invité est en train de dire. En tout cas, s'il peut encore vraiment nous donner encore plus d'éléments pour que le gouvernement fasse son travail parce que vraiment, nous en avons assez. Et je voudrais aussi aborder du côté de la santé.
Oui, allez-y, vraiment, il y a beaucoup de gens qui attendent.
De ce côté-là, vous savez que les infirmiers qui travaillent chaque jour, mais qu'est-ce qu'ils ont comme salaire? Franchement, c'est malheureux. Est-ce que c'est comme ça que nous pouvons être soignés, vraiment, et les Congolais peuvent être bien soignés dans ce pays-ci? Voilà, j'aimerais bien que de ce côté-là aussi qu'on fasse des efforts, que le gouvernement vraiment fasse des efforts. Voilà, je m'arrête là-bas pour ne pas prendre tout le temps. Merci beaucoup.
Merci beaucoup tout ça. Nous retenons que votre souci tourne autour du budget, la part qui doit être allouée à l'éducation et aussi à la santé. Donc je crois que nous allons encore y revenir parce que notre invité tout à l'heure a aborder cette question avec beaucoup de sérieux. Nous signalons que effectivement par rapport à d'autres pays nous avons un budget qui est aussi très la part qui est trop faible, très faible allouée à l'éducation et à la santé. Jirès est à Kananga. Bonjour Jirès.
Bonjour.
Jirès, vous avez commencé par rapport à la situation. Vous avez souhaité aborder cette question.
Allez-y. Je pose l'idée de notre invité qui a dit que notre gouvernement a mis vraiment l'insignifiance de son budget, 0,5%, 6 et 5%, pendant qu'un petit comme le Rwanda, qui n'a rien comme ressource, mais qu'à 50% de son budget, les Rwandais ont besoin de former les élites de demain, mais pas dans notre pays. Je me souviens, que j'étais encore à Lubumbashi. Présentement, je suis à Kananga, dans des années antérieures. C'était bien avant que c'est l'enfant de qui peut étudier à l'université. Mais les parents sont en train de se donner. Mais l'école primaire, telle que vous le dites là, est-ce que réellement un enseignant qui touche insignifiamment peut-il avoir la volonté, si le gouvernement a besoin à ce que les enfants soient formés gratuitement, il doit commencer à payer l'enseignant de manière que l'enseignant ait cette volonté. Vous trouverez ici à Kananga où nous sommes, il y a des écoles là où on forme les enfants, ce sont dans des écoles privées. En dehors de toute la ville de Kananga, il n'y a que Lumière des Nations, l'église orthodoxe qui a son école, là où on dispense les cours gratuitement de première jusqu'au sixième secondaire. Et on vous fait, les enfants des autorités de la place sont dans cette école, pendant que l'école-là des orthodoxes était faite pour les gens de Béni. Et vous trouvez que les mêmes autorités de la place courent maintenant chez Lumière des Nations pour aller former leurs enfants, parce que là, on donne une éducation de qualité.
Voilà.
Donc, nos membres du gouvernement n'ont pas la volonté, parce qu'ils ont déjà atteint le niveau le plus supérieur, ils sont en train de former leurs enfants ailleurs, et maintenant, ils cherchent à ce que tout soit à zéro.
Voilà, merci Jiraïs pour votre intervention, une contribution très riche, mais retenez que la petitesse d'un pays, hein, donc parce que vous avez parlé de petits pays comme le Rwanda, doit être mesurée quand même par rapport à son PIB, les produits intérieurs bruts. Hein, est-ce que le nôtre, nous avons la production? Ben voilà, toute cette question, je crois qu'un jour on pourra également revenir pour faire une émission, une parole aux auditeurs, par rapport à la production d'une nation qui doit être aussi mise en compte. Nous retournons du côté de Joseph, en attendant, avant de prendre Gérard Kananga. Gérard, vous restez en ligne, on va vous récupérer tout à l'heure pour aussi suivre votre intervention. Joseph, vous avez suivi les interventions de tout à l'heure, mais et là, ça me pousse à vous poser une question sur l'appui des ONG. Aujourd'hui, l'appui des communautés internationales, semble-t-il que cet appui est quand même faible. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les autorités n'ont pas les moyens de leur politique pour pouvoir aider réellement disons les enfants congolais ou aider à améliorer les conditions de vie des enfants congolais.
Je vais vous surprendre. Lorsque je vais déclarer qu'une nation où les institutions internationales sont très prononcées, c'est une nation qui n'a pas d'avenir. Les Nations Unies, les ONG internationales, c'est une organisation qui n'a pas d'avenir parce que toutes ces institutions viennent faire leurs affaires. Et vous allez remarquer que dans tous les pays à travers le monde où il y avait les Nations Unies, où il y a les organisations internationales, tous ces pays n'ont pas avancé. Et d'ailleurs, si vous regardez notre pays avant qu'on accède au système, à la présence des Nations Unies, présence des ONG internationales, ce pays-ci, et moi je vous informe que lorsque j'étais mes études, je ne connaissais pas l'UNICEF. J'ai connu l'UNICEF en 1994, c'est mon ami de l'Organisation des droits de l'homme, Guillaume Ngueffa des droits de l'homme, la SADO, qui m'a parlé de l'UNICEF en 1994, je ne connaissais pas, parce que la situation du Congo était telle que tout marchait bien. Lorsque dans le pays, la présence des internationaux plutôt, est plus prononcée, tous ces internationaux font que les choses n'avancent pas pour justifier leur présence. À ce moment-là, vous allez faire le rond-point. Donc, moi, je suis convaincu que l'avenir de notre pays est compromis tant que la présence des organisations internationales est très prononcée. Ça, c'est un. De deux, les organisations qui sont locales et internationales, qui viennent...
mais parce que vous êtes acteur sur le terrain, si vous pouvez évaluer cet appui des ONG, oui, tant nationales qu'internationales, aux côtés du gouvernement, par rapport à la situation de l'enfant, vous pouvez estimer à combien aujourd'hui, quelle est l'estimation de cet appui?
Cet appui ne représente rien.
Absolument rien.
Absolument rien, je vous informe. L'UNICEF a un budget de 250 millions de dollars. Il a plusieurs programmes. Il a plusieurs programmes pour 250 millions de dollars. Quand ça représente quoi?
Mais venir en appui, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que l'État, oui, lui-même déjà...
L'État demande ce qu'il demande.
L'État a pris en charge. Quelque part, quelque chose manque. Il vient appuyer. Mais l'État n'a rien prévu
pour l'éducation, pour la santé.
Alors, donc, tout ce que la communauté internationale apportera, ça ne représentera absolument rien. Parce que l'État lui-même n'a rien.
Une goutte d'eau dans l'océan.
Comme disait un philosophe, celui qui n'a rien, on lui rajoute.
L'État n'a rien prévu. L'État a le moyen qu'il prévoit pour autre chose qui les intéresse. Et non pas pour la santé et l'éducation des enfants. Vous comprenez? Donc, c'est le problème, c'est à ce niveau-là. L'affectation des ressources de la population. D'ailleurs, c'est là où j'ai dit que nos parlementaires devraient savoir. C'est-à-dire, ce sont à eux qu'incombe la faute. Parce que lorsque le gouvernement propose un budget, il devait d'abord savoir quelle est la part...
Même le budget de 2012-2013,
quelle est la part que vous avez...
La part allouée à l'éducation...
Quelle est la part que vous affectez à l'éducation pour permettre à nos enfants, pour mettre à tous les enfants des Congolais d'accéder à l'éducation. Ce n'est pas la préoccupation des parlementaires. C'est, en fait, ça devait être leur bonne préoccupation. S'ils ne se posent pas cette question-là, si le budget est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que les parlementaires ne sont pas préoccupés pour le développement des enfants.
Voilà, on a Gérard Kananga et Ingénieur Mangoyo à Kinshasa. Gérard, bonjour. Voilà, Gérard, vous avez suivi les interventions des uns et des autres. Hein. Quel commentaire faites-vous par rapport à la situation de l'enfant? Parce qu'aujourd'hui, nous faisons cette émission en marge de la journée internationale des droits de l'enfant. Quel constat avez-vous fait dans votre milieu? Et que faut-il faire pour améliorer les droits de l'enfant à travers le pays?
Merci. C'est par dire au gouvernement d'abroger toutes les lois qui sont conformes à la situation de l'enfant en République démocratique du Congo. Pourquoi ça? Parce que nous constatons que les autorités qui ont élaboré ces lois ont laissé leurs enfants à l'étranger en train de produire ce bien.
Voilà, Gérard, on vous suit difficilement. Vous sortez vraiment comme dans une caisse là. Et votre voix, bon, on n'entend pratiquement rien. Si vous pouvez peut-être bouger un tout petit peu, hein, aller peut-être ailleurs. Là, peut-être vous êtes là où il y a dans un endroit où il y a trop de béton. Je ne sais pas. Oui, évoluez un peu là, comme ça on va voir si ça va s'améliorer.
Je suis déplacé.
Oui, allez-y, Gérard.
Oui, merci. J'ai demandé à ce qu'on puisse apposer les lois qui sont conformes à la situation de l'enfant en République démocratique du Congo parce que nos autorités ont élaboré ces lois, ont laissé les enfants à l'étranger en train de bien étudier et nous ici en République démocratique du Congo RDC, nous sommes en train de souffrir pour que leurs enfants-là puissent nous gouverner à la prochaine occasion. Ce n'est pas bien. Faisons l'analyse de la guerre à pays, nous trouvons que beaucoup de victimes à l'est du pays sont les enfants, toujours du Congo, sont en train de dire que oui, les autres en train de souffrir en Burundi, nous ne savons pas la cause, c'est quoi la guerre.
Donc vous ne sentez pas. Oui, Gérard, vous ne sentez pas l'impact de toutes ces lois qui ont été votées. Merci. Ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa en une minute pour aussi proposer des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bonjour, Ingénieur Mangoyo.
C'est dommage, Gérard, que je sois le dernier intervenant.
Voilà. On vous accorde 45 minutes alors.
Allez-y. Vous savez, moi je ne vais pas revenir sur ce que les autres ont déjà dit. Mais est-ce que nous les parents, on se débrouille tant bien que mal hein, pour essayer d'escolariser nos enfants, on se débrouille tant bien que mal, j'insiste. Mais est-ce que le gouvernement, est-ce qu'il a une vision? Une vision pour la jeunesse? Je ne pense pas. Parce que lorsque vous regardez, vous savez que le budget, c'est l'expression chiffrée du programme du gouvernement. Mais les gens nous disent, mais l'éducation, le pourcentage affecté au budget, c'est combien? Mais de quelle jeunesse on peut s'attendre demain? Il y a trois ministères au sein du gouvernement qui fonctionnent et qui sont censés s'occuper de la jeunesse. Je peux citer, il y a le PSP, il y a Jean, et Famille, c'est pas moi, et il y a jeunesse.
Même la santé.
Mais est-ce que ces trois ministères s'occupent réellement de la jeunesse? Regardez même devant sur le boulevard 30 juin, devant l'un des ministères, genre, famille, enfants. Mais regardez comment les chèques se promènent là-bas, rançonnent pratiquement, dérangent même les automobilistes. Mais non. Le gouvernement, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision gérée. Les députés doivent faire un effort. Au lieu de faire chaque fois du folklore là-bas au Parlement, je pense qu'eux aussi, ils ont une grande part de responsabilité dans le déclin de la jeunesse. Voilà, je m'arrête.
Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo. On va conclure avec notre invité, Joseph Godet. On va ramasser tout ce que nous avons entendu dire les uns et les autres, Godet. En conclusion, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Vous avez brossé avec nous la situation, les tableaux qui représentent la situation de l'enfant en République démocratique du Congo, quelles sont les solutions à apporter?
C'est simple. La situation des enfants congolais s'est détériorée, comme je vous l'ai dit, à la suite de la politique d'ajustement structurel de 1984. Le budget alloué à la santé, qui était de plus près de 5%, à l'éducation de 30%, ramené à 1%, à 0,0, ça fait qu'il y a le débâcle. S'il y a une volonté politique de la part du gouvernement de pouvoir améliorer, préparer l'avenir de ce pays à travers la jeunesse, préparer la bonne santé des enfants, l'État doit pouvoir affecter à l'éducation, avec le Parlement bien entendu, près de 30% du budget. Et les restes des ressources qui viennent, comme les fonds de promotion de l'éducation, les restes de ressources qui viendront de l'UNICEF, des bailleurs de fonds, viendront en appui pour améliorer le système. Deuxièmement, je félicite le ministère du Genre, qui est le ministère formatif. Donc c'est ce ministère a l'obligation de pouvoir préparer les textes. Ils ont préparé les textes de loi qui est disponible. La loi
sur maintenant,
c'est l'application
sur le terrain.
Et au niveau de la protection des enfants, nous disons que le ministère de la Justice doit pouvoir jouer son rôle pour que toutes les dispositions qui sont prévues dans la protection de l'enfant soient mises en application afin que les enfants congolais soient sécurisés.
Merci Joseph Godet, KIMB. Nous rappelons que vous êtes le président du conseil d'administration de la LISADEL, la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves. Merci à tous également d'avoir participé à ces débats. Merci aussi à Guy Manzangou qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Pierrot Lamegi l'ont réalisé et Jir Lungembo vous l'a présenté sous la supervision de Nicole Ngaka. Réécoutez cette émission sur notre site www.radiocapi.net. La crise dans l'est de la RDC engendre une situation humanitaire très préoccupante selon les rapports concordants des quelques humanitaires, des rapports qui évoquent certains les besoins d'un financement supplémentaire pour faire face correctement à ces défis. Nous en parlons demain. Selon vous, quel peut être l'apport du gouvernement congolais face à cette demande des humanitaires? Donc, prenons rendez-vous demain à 11h.